Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est des personnes qui sont des explorateurs, des hommes et des femmes qui vont plus loin que tous, qui ouvrent des voies inexplorées. Henri Le Saux en est un. Moine bénédictin, il quitte son monastère en France après 20 ans de vie religieuse pour gagner l'Inde. Un homme qui, pour comprendre ce pays qui est un monde, s'est plongé dans l'hindouisme jusqu'à découvrir, au dire de certains, comme une voie d'unité avec le christianisme, syncrétisme, relativisme, disent immédiatement d'autres. Peut-être, mais nous aurions tort en ces temps où les spiritualités orientales attirent les Français, parfois plus que le christianisme, de ne pas nous y intéresser. Alors ce matin, je vous propose une émission portrait de ce chercheur de Dieu. Cette émission Vivante Église, ce matin donc, Henri Le Saux, un bénédictin en Inde, avec autour du plateau, honneur aux dames, Françoise Jacquin, vous êtes historienne et bonne connaisseuse d'Henri Le Saux, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes donc en direct par téléphone depuis, je crois, Paris ou la région parisienne,
oui, en
tout cas en France. Fabrice Blé, vous êtes professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa et auteur donc d'un documentaire, d'un film, pardon, intitulé L'Aurore du Tréfonds, bonjour.
Bonjour.
Voilà, et vous êtes en direct, vous, du Canada. Je vous laisse tous bien parler devant vos combinés. Et François Meyer, qui se définit comme un chercheur et qui est co-organisateur de la projection L'Aurore du Tréfonds, on le redira, qui sera projetée pour une soirée, j'imagine aussi, débat le 20 septembre prochain à la Maison des Œuvres à Pamiers. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette émission qu'on va essayer de rendre didactique pour la découverte d'un géant, hein. Une heure d'émission, c'est évidemment bien peu pour les fins connaisseurs que vous êtes. Je propose dans cette première partie, comme souvent, quand on fait des portraits de personnalités, d'essayer de parcourir à très grands pas la vie de cet homme. On va commencer avec vous, peut-être, Françoise Jacquin, honneur aux dames à nouveau. Comme introduction, je vous disais, on pourrait essayer d'aller jusqu'à la période où il quitte Kergonan. Cet homme donc est né en France en 1910. Que sait-on de sa vocation? Il devient bénédictin relativement jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire si on sait les choses de sa vocation?
Oui, Henri Le Saux était l'aîné d'une famille nombreuse de Bretons, tradition croyante très forte. Et il est entré très jeune au petit séminaire et tout naturellement au grand séminaire. Mais c'était un homme très exigeant spirituellement qui a senti un appel de servir Dieu plus entièrement. Et c'est pour ça qu'il est entré dans un monastère également breton, dans le sud de la Bretagne, ce monastère bénédictin de Kergonan.
D'ailleurs, je crois qu'il a, enfin, j'ai vu dans le film de Fabrice Blé qu'il y a une citation à ce sujet. Ce qui m'a attiré le plus dans la vie monastique, c'est que on y trouve Dieu plus que tout. J'ai l'âme ambitieuse, très ambitieuse.
Voilà, exactement. Il se sentait appelé vraiment à une rencontre personnelle avec Dieu et il pensait que la prêtrise ordinaire, enfin, ne le répondrait pas à cet appel.
Donc il entre à l'abbaye bénédictine donc de Kergonan.
Il n'a que 19 ans, hein. Il est donc très jeune et il sort directement du séminaire de Bretagne. Il a très peu vécu, comme on dit.
Voilà, l'abbaye de Kergonan qui est connue d'une partie de nos auditeurs, puisque Monseigneur Le Gall, l'archevêque de Toulouse,
oui,
a été moine là-bas. Il est rentré aussi assez jeune, je crois que c'est 17 ans, et il en a été son père abbé. Qu'est-ce que vous diriez de cette période monastique qui a quand même duré une vingtaine d'années? C'est important de le préciser au début de cette émission, avant qu'on parle de sa période en Inde.
Eh bien, il s'est très vite fait remarquer comme un bon moine et qui pouvait tout de même aider justement la communauté dans sa démarche spirituelle. Il a été professeur de pères de l'Église, enfin d'histoire ecclésiastique et cérémonière. Enfin, il aimait bien aussi se donner un faste à la liturgie. Enfin, vous savez, très vite, il y a eu la guerre. Puisqu'il est entré en 30, il a fait sa profession, il a fait ça en 31, et pendant la guerre, l'abbaye a été un peu dû quitter les lieux à cause de, enfin, il était au bord de la mer, donc il fallait aller à l'intérieur des terres. Et au retour, il a senti que là, ça n'irait pas très bien. Enfin, il désirait vraiment autre chose et à cet appel d'intériorité de plus en plus fort lui faisait chercher quelque chose en Asie.
Alors justement, Fabrice Blé, on va vous donner un peu la parole. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Évidemment, c'est très rapide, hein, comme je le disais, peut-être pour vous. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire ? Comment l'appel de l'Inde entre dans la vie et dans le cœur d'Henri Le Saux ?
Oui, alors c'est assez mystérieux cet appel de l'Inde. On estime que c'est à l'âge de 24 ans qu'il a cet appel, et en se posant la question, mais qu'est-ce qui finalement a suscité une telle vocation ? Bien, peut-être fondamentalement, il y a un côté missionnaire qui est présent chez lui, cette idée de vouloir faire connaître le meilleur de la vie monastique en dehors de l'Occident, dans d'autres contrées, en Asie. Donc ça, c'était très fort chez lui, cette idée de faire connaître l'Évangile, de faire connaître le Christ. Mais je crois qu'il y a quelque chose de peut-être plus fondamental encore, c'est que dans l'hindouisme, que dans l'Inde, il a saisi ce Dieu innommable, ce Dieu qu'il désire tant connaître en expérience et qui peut-être l'attire au-delà des mers, voyez-vous. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est absent du christianisme, mais peut-être que dans ses lectures, précisément en tant que professeur, des novices, professeurs de l'histoire de l'Église, etc. Peut-être a-t-il découvert ce Dieu chez les pères grecs, chez les pères chrétiens, mais également dans des lectures concernant l'hindouisme.
Alors vous avez d'ailleurs une phrase dans votre film à ce sujet. C'est une lettre qu'il adresse à l'une de ses sœurs où il dit que en substance qu'il a fallu que Dieu l'envoie bien loin pour commencer à s'éveiller au réel. On voit qu'en fait, en tout cas au début de sa vie, il n'y a pas de reniement de sa vie monastique. Si on doit avancer là-bas, il rejoint un certain Jules Montchanin. Alors pour vous, c'est une figure bien connue. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire des débuts de cette vie en Inde où ils travaillent, en fait, si je dois résumer, où ils avaient l'ambition tous les deux de fonder une vie bénédictine en Inde pour évangéliser, en fait. Fabrice Blé, allez-y. Madame Jacquin.
Alors, oui, si je peux me permettre, je crois justement que leur objectif initial n'était pas le même. D'abord, Montchanin était en Inde déjà depuis une dizaine d'années quand Le Saux l'a rejoint, et il était beaucoup plus, il avait 25 ans de plus que, non, enfin 20 ans de plus que Le Saux. Donc c'est deux hommes qui n'ont pas eu antérieurement du tout le même parcours, parce que Montchanin était un intellectuel.
Alors, rentrez pas dans un trop grand degré de détail, hein, partez du principe que les auditeurs sont loin. Racontez le début de son arrivée en Inde. Qu'est-ce qu'ils vivent comme aventure ensemble ?
Eh bien, quand il arrive, Montchanin a ce rêve de fonder un ashram, mais ne peut pas, n'a pas la permission de son évêque, et il est tout simplement prêtre diocésain. Donc c'est au presbytère qu'il se rencontre, il n'est pas encore question d'ashram. Mais l'un et l'autre ont en effet tout à fait le désir de vivre en ermitage, de style hindou, et donc, grâce à l'arrivée de Le Saux, faut bien le dire, les choses vont avancer, parce que Le Saux était très efficace et a trouvé les lieux, le financement, pour qu'il débute cette vie d'ashramite.
Alors Fabrice Blé, il y a des étapes fondamentales dans la vie du père Henri Le Saux. C'est entre autres donc en 1949, il se rend à une montagne. Vous qui êtes allé sur place, peut-être vous allez pouvoir décrire aussi ce lieu. Cette montagne, c'est Arunachala. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente cette montagne peut-être en Inde et dans l'hindouisme et l'expérience qu'y fait le père Henri Le Saux ?
Alors, la montagne d'Arunachala est mentionnée dans de très anciens textes hindous comme étant une demeure du dieu Shiva. C'est un lieu de pèlerinage important en Inde. C'est une montagne qui n'est pas si grande, mais qui est parsemée d'ermitages. Et depuis des générations et des générations, des ermites se relaient dans ces grottes. C'est une montagne qui marque souvent le voyageur, même s'il n'est pas croyant, il y a vraiment quelque chose qui se passe, et beaucoup refont l'expérience ici du caractère sacré d'une montagne qui n'est pas inconnue bien sûr de la tradition chrétienne. Dans la Bible, on a ces montagnes qui sont importantes. Et Henri Le Sault va découvrir au fond ce caractère sacré de la montagne d'Arunachala à travers, malgré tout, la présence d'un sage que va lui faire rencontrer Jules Manchanin, qui est Ramana Maharshi. Et cet homme...
Est-ce que vous pouvez dire deux mots de cet homme et puis peut-être on écoutera un extrait après de votre film?
D'accord. Donc c'est un homme qui, je dirais, ne s'est jamais déclaré comme étant un maître, un gourou, mais c'est tout simplement quelqu'un qui s'est retrouvé immergé dans cette présence divine. Et il n'avait pas beaucoup besoin de parler pour pouvoir faire en sorte que les gens ressentent quelque chose. Ça a été le cas d'Henri Le Sault. Il l'a rencontré peut-être deux fois et sans échanger véritablement de paroles. Et par contre, la présence du sage a été un déclencheur extraordinaire. Ça a ouvert chez Henri Le Sault un abîme, des profondeurs, son fond, et Le Sault a été happé tout le reste de sa vie dans ces profondeurs. Ensuite,
on va écouter justement un extrait, c'est un extrait donc de votre film qui s'appelle L'Aurore du Tréfonds, moment justement de ce face-à-face avec ce sage Ramana Maharshi, si je prononce correctement.
En Inde, le darshan, le face-à-face avec un être éveillé, est l'une des plus grandes bénédictions que quelqu'un puisse recevoir ici-bas, condition l'éveil suprême. Aussi le moine breton s'attend à être touché par la présence du sage dès le premier regard, mais rien. Rien ne se produit jusqu'à ce que, le lendemain, il soit marqué par une profonde impression bercée par le rythme des récitations védiques. Avant même que ma pensée n'ait pu le reconnaître, ni surtout l'exprimer, l'auréole intime de ce sage avait été perçue par quelque chose au plus profond de moi-même. C'était comme l'âme même de l'Inde qui perçait jusqu'au plus intime de mon âme et entrait avec elle en communion mystérieuse.
Voilà donc un extrait donc de L'Aurore du Tréfonds de Fabrice Blé. Comment vous introduiriez, puisque ce que je vous propose, c'est que peut-être on essaiera de voir quel est son cheminement intérieur dans la deuxième partie de l'émission pour essayer de rendre ça le plus lisible possible. Mais qu'est-ce que vous avez compris, Fabrice Blé, de la nature de cette expérience qu'il fait en présence de cet homme?
C'est une expérience de l'indicible. C'est une expérience que Henri Le Sault va essayer de décrire avec ce terme qu'il emploiera souvent et qui vient de l'hindouisme, qui est le mot Advaita, non-dualité. C'est une expérience sur laquelle les concepts se brisent, les représentations éclatent et qui déroute, qui bouleverse, qui retourne. Et en ce sens, on peut parler de conversion dans le sens étymologique du terme comme retournement. Donc c'est quelque chose qui va véritablement lui offrir de percer, si vous voulez, ce nuage, ce mystère, et de ressentir, peut-être pour la première fois, de cette façon-là en tous les cas, cette paix et cette joie véritable. Et il va passer toute sa vie, tout le reste de sa vie, à rechercher cette paix et cette joie véritable. D'où le titre d'ailleurs du film, on parle de l'aurore du tréfonds, c'est... Au fond, cette naissance de ce plus intime de soi dans lequel se situe le divin. Et j'aime beaucoup ce rapport à l'aurore chez Henri Le Sault quand il parle de son expérience à Arunachala, où il dit « L'expérience qui est la mienne aujourd'hui, c'est comme une aurore, c'est le moment où le ciel est illuminé, mais on attend encore le soleil au zénith. » Et pendant toute sa vie, ça va être cette recherche de ce soleil au zénith.
Alors, je vois le temps qui passe. J'aimerais, avant qu'on fasse une première pause, peut-être qu'on finisse ces grandes enjambées à propos de sa vie. Si j'ai bien compris, s'ensuit, évidemment, c'est très, très rapide, hein, un intense débat intérieur au cœur de cet homme entre, on va dire, sa part chrétienne occidentale et ce qui devient de plus en plus sa part indienne. Cet homme finit sa vie en étant ermite, et ce, dans l'Himalaya. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Fabrice Blé, de la fin de sa vie, où il rencontre, où il a un maître aussi spirituel? Alors, je vous laisserai prononcer le mot de ce maître spirituel. Comment vous résumeriez le fin de l'existence de cet homme, qui décédera donc en 1973?
Donc, la fin de sa vie est marquée en effet par cette relation maître-disciple. Il va connaître la paternité spirituelle, il va en être très heureux de façon évidente. Par contre, le maître propre d'Henri Le Sceau, celui qu'il va considérer pour la première fois comme son maître, c'est au sud de l'Inde, c'est bien avant, au fond, son époque où il vit au nord, ça sera Sri Gyanananda. Et c'est quelqu'un qu'il va rencontrer d'ailleurs très peu de temps, mais la rencontre va être si intense qu'il va apprendre beaucoup de lui. Et ce rapport maître-disciple, il va pouvoir le vivre, mais d'une autre façon, avec le disciple qu'il va rencontrer dans le nord de l'Inde et qui s'appelle Marc Chaduc, un jeune Français, et qui va devenir véritablement celui qui va s'éveiller au contact du Père Le Sceau.
Voilà, je vous propose qu'on fasse une première pause. On pourra revenir évidemment sur certains aspects de sa vie. On va essayer, voilà, de creuser ce qui fait l'expérience de cet homme, donc parti peut-être avec le désir d'évangéliser. Et il y a un moment dans le film, je ne me souviens plus du terme exact, mais il laisse entendre que c'est comme si l'Inde lui avait révélé le Dieu qu'il cherchait.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église, donc ce matin sur Henri Le Sault, un bénédictin en Inde, à la faveur donc de la future projection d'un film intitulé L'Aurore du Tréfonds, dans la grande région toulousaine, mais non, c'est au-delà de Toulouse, en tout cas en Midi-Pyrénées, autour du plateau. Autour du plateau, nous sommes avec Françoise Jacquin, historienne, bonne connaisseuse d'Henri Le Sault, Fabrice Blé, qui est professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa, donc auteur de ce film « L'Aurore du Tréfonds », et François Meyer, qui se définit comme chercheur et co-organisateur de cette projection qui a lieu, je le rappellerai à la fin de cette émission, donc le 20 septembre prochain à la Maison des Œuvres à Pamiers. Je ne sais pas qui des deux vous aurez peut-être entendu, chers auditeurs, à raccrocher par inadvertance. J'aimerais dans cette deuxième partie donc on revienne peut-être sur la première intention qu'on essaye de faire à grands traits après avoir parcouru sa vie, donc son chemin intérieur, en tout cas ce que vous en avez compris. Si on commence avec vous, Madame Jacquin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la première intention d'Henri Le Sault? Vous me disiez il était parti pour évangéliser en Inde, mais en même temps il n'avait pas tout à fait la même intention que Jules Montchanin qui l'a rejoint là-bas. Qu'est-ce qui habitait le cœur de ces deux hommes quand ils ont commencé à vivre ensemble dans ce pays?
Quand ils ont commencé à vivre ensemble, ils avaient harmonisé leur but. Mais auparavant, c'est vrai que Le Sault est arrivé avec le désir de fonder des petites cellules bénédictines de style indien, certainement. Mais enfin, c'était l'ordre de Saint-Benoît qu'il voulait adapter à l'Inde. Et puis, il s'est tourné vers ce prêtre français dont il avait entendu parler, qui vivait donc en Inde depuis longtemps. Il avait déjà lu des articles de cet homme qui proposait une adaptation plus profonde que celle d'ordre, une mise à l'école, carrément à l'école de sages hindous, pour féconder le christianisme en quelque sorte.
Est-ce que vous pourriez recontextualiser aussi, c'est-à-dire que il n'y avait pas beaucoup d'hommes qui avaient tenté cette aventure, c'était les premiers?
C'était très exceptionnel. Je ne pense pas. Il devait y avoir du côté anglican, peut-être, quelques essais également de vie de ce style. Mais là, ils ont commencé extrêmement pauvrement, tous les deux, et se faisant lieu d'accueil, au fond, pour tous les chercheurs de Dieu, pour ceux qui passent. Vous savez, en Inde, il y a énormément de moines itinérants, de sages qui cherchent la lumière et qui sont contents de s'arrêter et de dialoguer plus ou moins, parce que malheureusement, les deux hommes parlaient mal l'anglais, à peine le tamoul, donc les échanges n'étaient pas très fournis, mais il y avait un partage spirituel malgré tout.
Fabrice Blé, est-ce que vous pouvez nous dire, je ne vous ai pas posé la question encore, ce qui a motivé la réalisation de ce film?
En fait, faire ce film, c'était un vieux rêve, pas nécessairement sur Henri Le Sault, mais depuis l'adolescence, même l'enfance, je nourris ce désir de faire un film. Et je me suis promis, à l'époque où j'ai commencé ma théologie à l'âge de 18 ans à Strasbourg, de plus tard faire un film où je pourrais allier film et théologie. Et les circonstances se sont prêtées pour qu'au fond ce film puisse voir le jour et qu'il soit sur Henri Le Sault.
Et est-ce que vous pouvez, avant qu'on donne la parole à François Meyer pour nous parler donc de l'Advaitaï, vous nous expliquerez ce que c'est, est-ce que vous pouvez repréciser de manière peut-être un peu plus profonde comment vous qualifieriez ou préciseriez l'expérience spirituelle d'Henri Le Sault à Arunachala? Donc il passe du temps après, à l'école de cette montagne, en tout cas dans cette montagne, un long temps d'ermitage. Comment vous expliqueriez peut-être aux chrétiens qui écoutent l'antenne, pour qui l'introduction que vous avez eue était peut-être un peu mystérieuse?
D'accord. Peut-être rappeler juste avant, peut-être, que ce désir de faire ce film sur Le Sault vient du fait que c'est une figure assez exceptionnelle aujourd'hui, c'est un pionnier du dialogue interreligieux et c'est quelqu'un qui arrive à donner à nos contemporains la possibilité d'articuler sa foi à la croisée de plusieurs traditions. Peut-être qu'on pourra y revenir. Mais sur la question de l'Advaita, ce mot qui est très important dans le vocabulaire de Le Sault, c'est un terme qui se traduit par non-dualité ou a-dualité. Au fond, pour Henri Le Saux, c'est un terme qui nous rappelle cette vérité que Dieu ne peut être circonscrit dans aucune représentation, dans aucun concept, dans aucun mot. Et il est difficile de dire au fond quelle est cette expérience vécue, c'est quelque chose que l'on doit faire soi-même, bien entendu, mais c'est peut-être, s'il fallait ajouter quelque chose par rapport à cette expérience indicible, de l'ordre de l'invisible, mais qui est en même temps très concrète, c'est une expérience qui révèle la paix, qui révèle la joie, mais cette paix, cette joie qui ne passe pas, cette joie éternelle, cette joie et cette paix éternelle et cette joie éternelle. C'est véritablement cela que Le Saux a saisi d'une certaine façon et qu'il a voulu vivre pleinement toute sa vie. Et c'est ce qui l'a conduit aussi à vivre une certaine angoisse parce qu'il il avait l'impression parfois que le christianisme lui interdisait d'entrer davantage dans cet espace.
Alors on va voir ce que François Maillard nous dit. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait. C'est un moment, un passage de votre fil, donc L'Aurore du Tréfonds, où il est question justement de l'éveil.
Il n'y aurait pas d'expérience possible sans l'entrée en transe provoquée par l'éveil de la Shakti, la grâce nécessaire pour l'expérience suprême. Chercher le lieu d'origine, ne pas avoir peur de cette révolution dans le corps et le mental qu'elle opérera, et qui est terrible. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Swamiji en est convaincu. Anges et démons sont les personnifications de forces cosmiques en évolution vers le point Oméga, quel qu'il soit. Dans son accomplissement, l'humain est aidé par ses forces, qui se comportent comme des entités personnelles et libres. Il n'atteint pas seul sa destinée, il l'atteint avec l'univers.
Voilà, Swamiji, c'est donc Henri Le Saux, hein, c'est le nom qu'il prendra, et la suite, c'est Swamiji, Swamiji, c'est on va dire le diminutif, hein, Swami Abhishektananda, c'est bien ça, comme ça que je l'ai prononcé. François Meyer, L'Advataille, vous êtes intéressé à ce film. Vous me disiez avant l'émission que vous avez travaillé à faire en sorte qu'il soit connu un peu partout en France. Comment vous expliqueriez aux auditeurs ce que c'est que l'Advataille ? Alors, ou ce que vous en avez compris ?
L'Advaita. L'Advaita, c'est, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est Dvaita, c'est deux. Et le A, c'est le A privatif qu'on retrouvera dans les langues occidentales après. Donc, non, deux. Il n'existe pas deux choses, il n'en existe qu'une seule. Donc, ça se résume un petit peu à une phrase qui dit « Cela est, seul et sans second ». Et là, on fait une petite concession à la dualité et « Tu es cela ».
Répétez cette phrase, s'il vous plaît.
« Cela est, seul et sans second, et tu es cela ». Donc, tu, moi.
Alors, c'est ce qu'on appelle l'éveil, comme on dit de manière peut-être un peu vulgaire ici.
C'est la règle de non-dualité qu'on va retrouver dans toutes les traditions. On la retrouve chez les chrétiens avec Maître Eckhart, hein, et les mystiques rhénans, avec toute la mystique rhénane, avec Tauler, Suzo, avec les béguines. On le retrouve chez les musulmans avec les soufis.
Alors comment vous expliqueriez cette expérience de l'éveil ? Moi en tout cas c'est comme ça que je le nomme. Au long du film on a l'impression que Henri Le Saux en fait donc fait une expérience spirituelle. Est-ce une expérience de Dieu ? Je ne sais pas. Qu'il découvre quelque chose, on va dire, dans la tradition hindoue qu'il n'avait pas touché du doigt dans le christianisme et que vient de là peut-être le combat intérieur. Vécu à la fin de sa vie. Comment vous qualifieriez cette expérience spirituelle qu'a fait Henri Le Saux ?
C'est une question compliquée, puisque comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, c'est quelque chose d'ineffable, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la Bible, hein. C'est ineffable. L'éveil, on peut le résumer en la réalisation de ce qui est, c'est-à-dire la réalisation comme une expérience, hein. De ce qui est réellement. Donc Ramana Maharshi, dans sa méthode, si on peut dire ainsi,
qui est ce sage qui l'a rencontré deux fois.
Voilà, propose d'investiguer le soi, c'est-à-dire le grand soi, le petit soi, qui de toute façon sont la même chose, et d'investiguer et de se poser les questions, qui suis-je ? C'est la seule question que Ramana posait, c'est qui suis-je ? Et aller chercher une réelle réponse. Donc c'est vraiment une investigation jusqu'au bout, c'est pas juste quelque chose qui arrive et puis qui nous dit c'est comme ça, c'est fouiller, fouiller, fouiller.
Fabrice Blé, comment vous préciseriez un petit peu plus cette notion d'éveil ? On voit un moment dans votre film, j'ai pas bien compris si c'était en fait un moine chrétien qui a fait cette expérience, on voit en tout cas un hindou qui parle de cette expérience et qui parle, qui utilise le terme de mariage mystique. Est-ce que vous pouvez nous redire peut-être qui est cet homme et nous redire la nature de cette expérience spirituelle ?
Alors, cet homme formidable que vous voyez au début, au milieu et à la fin du film, c'est le père Emmanuel Batakouli. C'est un prêtre catholique qui, d'ailleurs, a fait la première thèse sur Henri Le Sceau à la Grégorienne, à l'université Grégorienne à Rome. Et il aurait pu très bien devenir professeur là-bas. Et il a décidé plutôt de suivre les traces d'Henri Le Sceau et de devenir son disciple. Il ne l'a jamais rencontré, comme on le dit à la fin du film, mais il a voulu ouvrir son propre ashram et suivre finalement cette épopée des ashrams catholiques initiée par Jules Monchanin et Henri Le Sceau. Donc, et vous pouvez toujours le visiter aujourd'hui, il est basé au Kerala, dans son petit ashram au bord d'une rivière très belle. Et donc, c'est quelqu'un qui,
dans le film... C'est quelqu'un d'extrêmement rayonnant, hein, qui a l'impression voilà. qu'il y a une joie enfantine, qu'il est transcendé par quelque chose. Sur la nature de cette expérience dont il parle, quand il parle de mariage mystique, on s'y perd un peu, mariage mystique, éveil, comment vous présenteriez ça aux auditeurs ?
Oui, alors c'est toujours difficile de donner une réponse satisfaisante à ce type de question, puisqu'il s'agit véritablement, encore une fois, d'une expérience du cœur, d'une expérience qui transcende les représentations, les mots, les formules. Mais il y a dans la tradition chrétienne, justement, ce rapport au mariage, à la chambre nuptiale, à la rencontre entre l'âme et le divin. Donc c'est un petit peu dans ce vocabulaire qu'il essaie de dire ce qui le concerne dans sa relation à Dieu. Donc c'est véritablement, au fond, ce qu'on peut retenir, c'est le rapport au fait que le Dieu se situe au-dedans et non pas au-dehors. Et c'est ce que Henri Le Sceau va découvrir, au même titre que bien des siècles plus tôt, saint Augustin a découvert, ou au XVIIe siècle, Madame Guyon a découvert. C'est qu'au fond, le Dieu qui est vivant, celui qui nous rassasie, qui étanche la soif, c'est le Dieu qui doit être trouvé à l'intérieur de soi et non pas au dehors.
Alors, peut-être une autre question à propos de cet homme dont j'ai oublié le nom, veuillez me pardonner. Ça sera peut-être la question pour vous, parce qu'on imagine que si vous avez fait ce film, c'est peut-être que si vous cherchiez quelque chose. En tout cas, quelle impression l'on a quand on rencontre une personne comme cela, qui, en tout cas, dans votre film, donne l'impression de vivre d'une joie bien mystérieuse.
Vous parlez d'Emmanuel Batakouli.
Oui, tout à fait.
C'est une personne très simple. Facile d'accès. Je l'ai rencontré, c'était en 2010, c'est à l'époque où j'ai tourné les premières images, lors d'un congrès justement à l'ashram de Monchanin et de Le Sceau, l'ashram du Shantivanam. Et c'était un congrès pour célébrer les 100 ans qui commémoraient la mort d'Henri Le Sceau. Donc c'est un homme très accessible, très simple, très souriant, et qui au fond est contagieux dans sa façon de vivre ce mystère. Mais au fond, je l'ai rencontré très peu de temps, et ce sont des scènes qui ont été tournées sans répétition, et j'ai tourné beaucoup, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, des heures, et pour finalement faire un film d'une heure seulement. Et j'ai trouvé bon de pouvoir commencer ce film avec cet humour, avec cette joie de vivre, car ce sont des sujets sérieux, mais en même temps avec une grande légèreté.
C'est de fait l'impression que ça donne, en tout cas. C'est qu'il y a vraiment une grande gravité, on va dire, à propos de cette recherche existentielle et spirituelle qui a été celle d'Henri Lossau, en tout cas dans votre film. Et puis là, tout d'un coup, jaillit quelque chose qui semble venir d'ailleurs. Françoise Jacquin, avant qu'on fasse une deuxième pause, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots de ce qu'on décrit être comme un combat intérieur, on l'a dit au début de l'émission, qui a été celui d'Henri Lessault entre, on va dire, son expérience spirituelle chrétienne et ce qui parfois peut ressembler à une expérience spirituelle venue d'une autre tradition religieuse. Que disent ces écrits de ce combat intérieur ?
Non, mais il a certainement eu du mal en arrivant en Inde parce qu'il est arrivé avec un bagage extrêmement traditionnel, ce qu'il avait reçu dans ce monastère, et il s'est trouvé plongé dans une autre culture, dans une autre manière de vivre, dans d'autres notions, et il lui a fallu opérer une véritable conversion, le mot a été dit tout à l'heure, si ce n'est une révolution qu'il emploie. Certainement, ces deux sources d'inspiration, son christianisme et l'hindouisme, au début, lui paraissait totalement incompatible et il en a certainement souffert. Et puis progressivement, par la prière, par la rencontre d'hommes, de témoins, et d'ailleurs pas seulement des hindous, mais aussi d'hommes profondément chrétiens, il a pu harmoniser les deux.
Est-ce qu'on a trace dans ses écrits du moment où il arrive à faire l'unité entre cela et la manière dont il le formule ?
Eh bien, il décrit longuement, en effet, ses états d'angoisse, parce qu'il ne sait plus trop où il en est. Et puis, il faut dire qu'il est très seul. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Le christianisme se vit en communauté, tout de même, se nourrit par la liturgie. Et là, il était tout de même tout seul, tout en célébrant quotidiennement l'Eucharistie. Mais il n'était évidemment qu'en milieu hindou. Donc, tout ça n'était pas confortable, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, tout à la fin de sa vie, il a déclaré « j'ai trouvé le Graal », c'est-à-dire qu'en effet, il est arrivé à un certain épanouissement réciproque et comme ça a été dit tout à l'heure, il a atteint le soleil à son zénith.
Fabrice Blé, avant qu'on fasse cette pause promise, comment vous décririez l'unité qu'il a pu trouver entre ce qui paraît être deux expériences spirituelles différentes ?
La solution pour lui, ça a été véritablement le dépassement des mythes, comme il le dit lui-même, chrétiens et hindous. Et cette capacité à rejoindre cette expérience universelle, cette expérience advaitique, où il n'y a plus ni un ni deux. Et c'est à ce moment-là que, véritablement, il est en mesure de réconcilier le christianisme et l'hindouisme qu'il porte en lui-même et qu'il ne peut pas se départir. Il ne peut pas être chrétien sans l'hindouisme, il ne peut pas être hindou sans être chrétien. Et c'est dans cette expérience véritablement qu'il pourra faire le pont. Mais dire cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'importance à donner à la tradition chrétienne comme telle.
Alors je vous propose, on va faire une deuxième pause, donc je rappelle le titre de ce film, L'Aurore du Tréfonds, film qui sera projeté donc le 20 septembre prochain à la Maison des Œuvres à Pamiers, ça sera à 20h30, c'est évidemment peut-être des mots qui peuvent interroger certains, d'aucuns ils pourraient y voir une forme de syncrétisme, j'aimerais qu'on en parle à la fin de cette émission, on fait donc cette pause et on vous retrouve pour parler de cela.
Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Henri Leçon, un bénédictin en Inde, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce jour, à l'occasion de la prochaine projection dans notre région de l'Aurore du Tréfonds, film réalisé donc par Fabrice Blé, qui est au téléphone avec nous depuis le Canada, professeur de théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Nous sommes aussi au téléphone avec Françoise Jacquin, historienne et bonne connaisseuse d'Henri Leçon, et François Meyer, organisateur de cette projection donc, qui aura lieu à Pamiers le 20 septembre prochain. Je le disais, pour un certain nombre d'auditeurs, on peut être interrogatif quant aux déclarations, quoi, enfin à l'explication qui a été la vôtre, peut-être Fabrice Blé, à la fin de la deuxième partie, quand vous expliquez comment Henri Leçon a trouvé à faire l'unité entre, on va dire, deux expériences spirituelles, son expérience chrétienne et son expérience hindoue. J'aimerais citer à ce sujet un article ou une conférence de Xavier Accard, qui est le rédacteur en chef de la revue Prier, peut-être connu par un certain nombre d'auditeurs, conférence qu'il avait donnée à un groupe Dialogue interreligieux monastique, qui, je crois, donc fait autorité en cette matière, où il parle, comment dire, peut-être justement d'un risque de syncrétisme et d'une certaine approche actuelle de la spiritualité qui serait, selon lui, nuisible à l'âme. Et il dit la chose suivante, il dit que par exemple on dit de Sainte Thérèse d'Avila qu'elle aurait eu une période où elle cherchait, on va dire, à faire le vide en elle-même, et que elle était revenue après de cette période en disant que le fond de l'expérience chrétienne, c'est se mettre à l'école de Jésus-Christ et d'un Jésus incarné. Françoise Jacquin, qu'est-ce que vous diriez sur ces interrogations que l'on peut avoir, peut-être légitimes, sur la question du syncrétisme ?
Je suis toujours un peu réservée sur le mot syncrétisme, parce que je crois que tout notre christianisme, forcément, s'est allié au cours des siècles à d'autres choses qui n'avaient rien de spécifiquement chrétien. Donc il faut être assez prudent, je crois, quand on utilise ce mot. Ensuite, c'est vrai que ces deux religions, entre guillemets, sont extrêmement différentes, que la philosophie n'en est pas la même, et que c'est tellement inconfortable que pour harmoniser, on est prêt à acheter le bébé avec l'eau du bain, si je puis dire rapidement. Mais il est beaucoup plus sain, je crois, de se dire d'abord qu'il faut être enraciné dans son christianisme, très bien connaître l'hindouisme, et puis les vivre ce face-à-face, en vis-à-vis, et quand on est chrétien, pourquoi pas en dépassement en Christ.
Dépassement en Christ. Alors j'aimerais qu'on écoute un autre extrait donc de l'Aurore du Tréfonds. C'est un moment où Henri Leçon se rend sur l'île d'Elephanta. Vous contextualiserez peut-être cette rencontre où il fait sur cette île une expérience spirituelle en faisant face au dieu Shiva.
Swamiji se rend à Bombay en 1955 pour accueillir un moine belge, désireux de se joindre aux ermites du Shantivanam. Il profite de ce voyage pour visiter l'île d'Elephanta, toutefois sans imaginer tomber à nouveau aux mains du dieu sans forme, signe d'un plus grand renoncement à venir. Les grottes d'Elephanta sont les œuvres des ermites qui, des siècles plus tôt, ont taillé dans la pierre le visage de leur dévotion au dieu Shiva, dont le culte le plus haut et de disparaître en lui et de n'être plus capable même de le nommer. En Inde, l'art autant que l'écrit est porteur de sacré. Swamiji en a saisi toute la portée dans sa rencontre avec le dieu à trois têtes, dont le regard perce jusqu'au fond de l'âme. Quand j'arrivais en face et que mes yeux rencontrèrent ses lignes, ses formes, ses courbures, et surtout ses yeux, le choc fut tel que je dus m'appuyer à une colonne. Je ne pensais plus qu'à une seule chose, rester assis, là, en face, au milieu de la grotte, en communion avec la divinité, sombrer en cette présence.
Voilà, donc là, on a donc Henri Le Saux qui va sur cette île. Est-ce que vous pourriez peut-être contextualiser ou expliquer un peu plus, François Jacquin, peut-être ce qu'est l'île d'Elephanta et cette expérience qu'il fait donc face à Shiva. C'est vrai que là, dans le film, on se dit, mais cet homme qui croit en un dieu qui s'est fait homme fait une expérience spirituelle face à une divinité hindoue. On imagine le combat intérieur peut-être que ça a pu être. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ?
Je dirais d'abord que ça a été un choc pour Henri Le Saux d'entrer dans cette petite île qui est au large de Bombay et qui ne comporte au fond qu'un temple. En fait, c'est une triple statue, si je puis dire. Et il n'y a pas que Shiva. Shiva, Vishnu et Brahma, oui, c'est ça, c'est Brahma. Voilà. Il a été extrêmement, comment dirais-je, saisi par la beauté, que j'ai eu la chance d'y aller. C'est vrai que c'est extrêmement beau. Et c'est même, il était tellement abîmé dans sa contemplation qu'il s'est laissé enfermé. Enfin, je veux dire, les bateaux n'avaient plus, il n'y en avait plus pour rentrer à Bombay. Et il a passé la nuit face à face avec cette splendeur. Donc, ça a été pour lui un moment très fort d'interrogation aussi, parce qu'on pense à la Trinité quand on voit ces trois têtes de Dieu. Et évidemment qu'il a intériorisé toutes ces questions très, très profondément.
Alors, on ne répondra peut-être pas à cette question qui est vaste, quoique, François Meyer, qu'est-ce que vous diriez sur cette question du syncrétisme ? Vous me citiez, Nostra Aetate. Avant l'émission, est-ce pour vous une manière de mettre tout le monde d'accord sur ce sujet ?
Non. Pour moi, Nostra Aetate, ça s'adresse...
Donc déclaration du Concile Vatican II.
Voilà, aux chrétiens, et c'est à eux de voir qu'est-ce qu'ils en font. Pour moi, le risque de syncrétisme n'existe pas vraiment. Il a été brillamment abordé dans une émission de Vivante Église, le 15 juin...
C'est gentil, c'est trop d'honneur.
...2018, et j'invite les auditeurs à s'y référer. Et pour moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de risques à une identification qu'à ce que vous appelez le syncrétisme, à savoir apprendre des... Il existe maintenant beaucoup de méthodes de thérapie, de yoga, de méditation, de prière, de religion, etc. Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi ? Eh bien, ce qui me rend meilleur, point.
Alors, on n'arrivera peut-être pas à se mettre d'accord sur ce sujet, parce que, légitimement, vu la responsabilité qui est la mienne, je ne peux pas tout à fait abonder en votre sens. J'aimerais qu'on finisse peut-être sur la question de l'enfant spirituel, mais voilà que je ne retrouve pas le texte que je voulais vous citer. Je fais des grands signes à François Meyer en lui demandant si c'est peut-être pas lui qui l'a pris. Il y a un thème qui est cher à Henri Le Saux, c'est la question de l'enfance spirituelle. Fabrice Blé, comment vous la présenteriez, cette enfance spirituelle ? Voilà, je retrouve la feuille, c'est un extrait d'une lettre. Il parle de Dieu, il dit « Dieu, c'est l'enfant ». L'enfant n'a aucune idée de jouer son personnage et de faire montre de son valoir et de sa valeur. La satisfaction de savoir et l'étalage de ce savoir. L'enfant, lui, est en soi-même tout simplement sans regard ni retour sur ce qu'il est, ni sur la façon dont il est. Qu'est-ce que vous diriez de cette question, de ce thème de l'enfant spirituel qui avait l'air d'être cher à Henri Le Saux ?
Ben, si vous permettez, j'aimerais faire un lien ici entre le thème qu'on vient d'aborder, le syncrétisme, et un autre qui va peut-être nous aider à répondre à cette question qui... est l'idolâtrie. Car s'il y a un risque de syncrétisme, je crois que pour Le Saux, il y a encore un plus grand risque, c'est celui de l'idolâtrie. C'est-à-dire cette attitude qui consiste à prendre un objet, une formule, un mot pour l'absolu lui-même. Et je pense que Le Saux s'est dégagé de plus en plus, au fur et à mesure de sa vie, de cette attitude pour ressaisir de façon transparente cette réalité qu'aucune formule, encore une fois, qu'aucun mot ne peut rendre compte. Et je pense que l'enfance spirituelle, ça se rapporte aux béatitudes, ça se rapporte à cet état de transparence.
Voilà, c'est les aléas du direct. François Jacquin, sur l'enfance spirituelle, peut-être quel serait votre mot complémentaire ?
Ben, Henri Le Saux a en effet écrit un très beau texte dans le journal du Carmel de Lisieux. et pour lui, l'article était intitulé « Dans le pays tamoul, Dieu c'est l'enfant ». Henri Le Sceau a toujours cherché une purification, à se débarrasser de concepts embarrassants, une transparence. Et il a vu ça dans l'enfant. Et là, en Inde, les enfants ont d'ailleurs un tel regard que ça devait le saisir. Il a cherché cet allègement de tout ce que l'âge adulte a de compliqué, d'obligation. Et pour se trouver un face-à-face et pouvoir dire en toute simplicité et vérité, Abba, Père.
Pour finir, Françoise Jacquin, qu'est-ce que vous donneriez comme piste de lecture aux auditeurs qui voudraient aller plus loin dans la connaissance d'Henri Le Sceau ? J'ai cru comprendre que peut-être son livre, c'est « La montée au fond du cœur », journal intime du moine chrétien, paru en 1986. J'ai entendu dire qu'il n'était pas facile à trouver. Et quelles sont les deux lectures peut-être que vous proposeriez aux auditeurs ?
C'est difficile, il a écrit une douzaine de livres et puis, je ne sais pas, une quarantaine d'articles.
Et s'il fallait en retenir deux ?
Alors, il y a une biographie qui est faite avec des extraits de lettres qui est assez intéressante. Le Bénédictin et le Grand Éveil par James Stuart, qui était un anglican que le Père Le Sceau a connu. Et puis, Sagesse hindoue, mystique chrétienne. Je dirais plutôt ceux-là, vous voyez, que la montée au fond du cœur. C'est une ébauche montée au fond du cœur. Ça ne va pas au fond, c'est des écrits au quotidien, puisque c'est son journal, mais d'autres textes vont plus profonds et sont peut-être plus accessibles. Et puis alors, beaucoup de correspondances, plusieurs correspondances se préparent à des religieuses, à sa sœur qui était bénédictine à Kerguelen, et qui donneront un éclairage, qui compléteront l'éclairage que donne...
Ces deux ouvrages. Merci beaucoup. Je rappelle le titre donc de ce film, L'Aurore du Tréfonds, film qui sera donné donc le 20 septembre prochain à la Maison des Œuvres à Pamiers, donc dans le diocèse de Pamiers, accueilli par l'évêque de ce diocèse, en lien donc avec François Meyer. Merci beaucoup de nous avoir aidés en dépit de ces aléas techniques et de la distance. Vous nous avez aidés à découvrir, ou en tout cas cette longue introduction sur Henri Le Sceau. Merci. Cette émission était réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.